Bonjour les frères, les sœurs, dans le Messie Yeshua, Jésus en français, que le nom de l'Éternel soit béni abondamment. Donc aujourd'hui, nous poursuivons donc notre commentaire sur le livre de Samuel, chapitre 25. Et nous commenterons donc du verset 14 au verset 35. Hier, nous avons vu le verset premier au verset 13 que nous avons intitulé et Samuel mourut. Donc aujourd'hui, nous pouvons en tout cas intituler Abigail intercéda pour sa maison. Ou bien une femme vertueuse nommée Abigail. Voilà, une femme vertueuse nommée Abigail. Hier, je résume, nous avons vu qu'après la mort de Samuel, donc David donc est descendu dans le désert de Paran, et nous avons mis l'accent sur Paran, Paran qui vient d'un verbe plutôt, qui veut dire glorifier, glorifier, briller, hein, Paran par lui-même. Lieu de caverne, et ça vient d'un verbe pa'ar, glorifier, embellir, orner. Et nous allons voir que c'est à partir de ce désert que David va prendre son ascension. Ce désert de Paran, ou bien la signification de ce mot, rejoint ce que la Bible dit que Dieu élève celui qui est humble. Ou bien l'humilité précède la gloire. Voyez, pour que Yeshua puisse avoir un nom au-dessus de tout nom, la Bible nous dit qu'il a accepté la mort, mais jusqu'à la mort de la croix. C'est ça. Voyez, cette descente de David dans le désert de Paran, loin des lieux de pouvoir, loin de Shaul, il s'était éloigné complètement de Jérusalem, alors que Jérusalem était son but. Ouais, donc Dieu l'a amené au désert, sûrement pour lui parler, pour lui apprendre à être humble, pour lui montrer une autre facette de sa personne, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit à ses besoins. Élohim l'a amené au désert. David est descendu dans le désert de Paran. Et dans le désert, comme nous le savons, ben, il est difficile de trouver de la nourriture, de l'eau, le soleil, le froid, la nuit, ainsi de suite. Des conditions hostiles. Mais de cette humiliation, de ce désert, David va commencer à grandir. David va commencer à être élevé. Du fumier, nous dit la parole de Dieu, il élève l'indigent. Ça, c'est Dieu qui le, ça, c'est Elohim qui le fait. Du fumier, il élève l'indigent, nous dit la Bible. N'est-ce pas? Je vais trouver ce verset parce que c'est important, mon frère, ma soeur. Quel que soit, oh ouais, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. Psaume 113, le verset 7. Voilà ce qui est arrivé à David. Peut-être que lorsqu'il était allé dans ce désert, il se disait, OK, je suis loin, c'est difficile, je souffre, je n'ai que 600 hommes, je suis obligé, je suis devenu un homme errant, un fugitif qui doit être d'ici là. Mais de ce désert, donc la gloire va apparaître. De ce désert, il va être élevé. Mon frère, ma soeur, quel que soit les problèmes par lesquels tu passes, sache que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim, et qu'à partir de ce que tu, les problèmes que tu as là, l'Éternel Dieu va te glorifier, l'Éternel Dieu va t'élever, l'Éternel Dieu va te faire briller comme jamais, si tu obéis à sa voix, si tu coopères avec lui. Ça, c'est la condition. Si tu coopères, si tu ne murmures pas, parce que beaucoup de personnes, lorsque l'Éternel les amène au désert pour parler à leur cœur, c'est ce que la Bible nous dit par rapport à Israël. Je l'ai amené au désert pour parler à son cœur. Mon frère, ma sœur, ne te plains pas, ne murmure pas, mais regarde vers Yeshua. C'est lui que tu dois regarder. Il a souffert plus que toi. Est-ce que toi qui souffres là, tu as souffert plus que Yeshua? Non, réponds, mon frère, ma soeur, est-ce que tu as souffert plus que Yeshua? Donc, répondons-nous tous. Donc, lorsque nous sommes dans la souffrance, regardons vers lui. Regardons vers lui. Ayons les yeux sur lui. Et toutes les choses de la terre, tous ces problèmes, pâliront peu à peu. Yeshua lui-même a dit, ne vous inquiétez pas, j'ai vaincu le monde. Vous avez des tribulations dans le monde, mais n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Yeshua a vaincu. Il a vaincu, il est allé jusqu'à la croix. Et la croix est devenue son trône. De la même manière, le désert de Paran est devenu, le trône de David, est devenu sa gloire. Du désert, il a brillé, il est allé jusqu'à Jérusalem conquérir le trône. Voilà, la royauté. Peut-être que quand il s'était éloigné de Jérusalem, beaucoup de gens ont dit, c'est fini, c'est ce que Nabal a dit. Qui est David? Il a méprisé parce que voilà quelqu'un qui veut devenir roi d'Israël, qui ne peut même pas se nourrir, qui est obligé de quémander. Vous voyez cette humiliation de David, obligé de quémander. Mais dans ce désert, il va commencer à grandir, à être ascensionné par l'Éternel Dieu jusqu'au trône de gloire de Jérusalem. Donc mon frère, ma sœur, ne pense pas que l'Éternel Dieu t'a oublié dans tes problèmes. Ne pense pas que c'est fini pour toi. Comme nous le chantons, les bontés de l'Éternel ne sont pas terminées. Mais ils se renouvellent chaque matin, mon frère, ma sœur. Donc, n'aie pas peur. Continue de prier, continue d'intercéder, même si la situation extérieure est contraire à tes attentes, est contraire à tout ce que tu espères, mon frère, ma sœur. Du désert, l'Éternel te sauvera. Du fumier, il te relèvera. De la poussière, il te relèvera. Et il te fera paraître avec des grands. Il te fera asseoir sur un trône. Hein, mon frère, ma sœur, donc n'aie pas peur. Je pense qu'il y a aussi un verset dans Paran. Il y a un verset comme ça. Il y a un verset Paran que l'Éternel brille de Paran. Oui, je pense. Il y a un verset comme ça. Mais bon, je ne sais plus. Hein. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah, et voilà. C'est ça, c'est Habacuc 3, le verset 3. On nous dit, Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Vous voyez, le Saint vient de la montagne de Théman veut dire quoi? Théman veut dire sud. Sud, Théman veut dire sud. Voilà, hein, c'est Dieu brille, le Saint vient de la montagne de Paran. Voilà, sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. Vous voyez que l'Éternel Dieu était sur la montagne de Paran. L'Éternel Dieu, c'est Habacuc qui l'a dit dans une de ses prophéties. L'Éternel vient du désert, du lieu des cavernes, dans les lieux où tu ne t'attendais pas, où tu ne t'attends pas. L'Éternel partira de cette situation pour t'amener dans la gloire, pour résoudre ton problème, pour te faire asseoir avec les grands, pour te bénir et te glorifier. Voilà ce que l'Éternel fera pour toi si tu places ta foi en lui, si tu fais de lui tes délices, si tu éloignes de toi, de ta tente, l'iniquité et tu fais de l'Éternel ton or. Voilà, ton or. Voilà. D'accord, mon frère, ma sœur? Et c'est ce que David a expérimenté. Maintenant, bon, nous allons voir comment Abigail, comme je le dis, son nom signifie « père, mon père est joie » ou « père de l'enthousiasme ». Comment elle va solutionner, pallier au déficit, au manquement de son mari. C'est pourquoi je la qualifie de femme vertueuse, de femme vertueuse. Vous savez, bon, je ne vais pas Je ne veux pas être mauvaise langue, mais des fois, certaines sœurs ou certains frères sont pires que le mot calamité. Vous comprenez bien ce que je dis. Voilà quoi. On voit des frères qui sont bien en chair. Et lorsqu'ils se marient, ils maigrissent. Hein? Ils maigrissent tellement parce que... voilà quoi. Ou bien certaines sœurs qui étaient bien jusqu'à ce qu'elles se marient. Et puis voilà, le frère soi-disant leur mène une vie dure. Une vie dure, impossible même. Ou bien, voilà, si elle n'abandonne pas le foyer, ou bien il n'abandonne pas le foyer pour aller voir ailleurs. Il y a toutes les situations. Mais ici, Abigail a fait le contraire de son mari. Et elle a pallié au manquement de son mari. Vous voyez, c'est pourquoi c'est une femme vertueuse. Dès qu'elle a su, dans le verset 14, « Cependant, un des serviteurs informa Abigail, femme de Nabal, en disant, « David avait envoyé des hommes chargés de saluer notre maître, mais celui-ci les a rudoyés. » Voilà, le mot est lâché. Nabal veut dire « sot, insensé, rustre, frustre même, dur, rugueux. » C'est un homme riche, mais à de mauvais caractères, colérique, colérique. Dès que ce serviteur connaissait son maître, il a vu à lui, il connaissait le caractère de son maître et il est parti directement. Il connaissait aussi le caractère de sa maîtresse, de Abigail, et il est allé directement informer Abigail. Hein? Je dis que ce couple était bien appareillé, bien appareillé. Voilà, il y a le pou qui est dur, qui est sot, qui est insensé, et la femme qui est sage et douce pour pouvoir atténuer le caractère, arrondir un peu les angles de cette famille, de ce couple. Et dès que Abigail a su, parce que ce serviteur a donné un témoignage dans le verset 15, positif de David et de ses hommes, que depuis qu'ils ont cheminé dans le désert de Carmel et d'Enguedi là-bas avec les hommes de David, rien ne leur était arrivé. Leurs troupeaux ont été protégés. Personne ne les a volés ni rasillés. Et il a dit, il leur a servi de rempart. Nous, l'Éternel est notre rempart. L'Éternel est notre barrière. C'est lui qui nous protège. C'est lui la tour dans laquelle nous nous réfugions. La Bible nous dit que l'Éternel est une tour forte. Et l'Éternel avait été avec David. Et c'est pour cela que les biens de Nabal avaient été préservés. Mais lui, il ne le savait pas. Il ne voyait que ce qu'il avait, sa richesse, vous voyez. C'est ça que la Bible nous dit, que l'argent est l'une des racines de tous les maux, de tous les maux, et que les gens sont prêts à tuer pour de l'argent, même à tromper, à tuer même leur propre famille pour de l'argent, à abandonner les pauvres de leur propre pays. Mais oui, les gouvernements sont prêts, les gens ont détourné des millions, destinés à soigner leur population, destinés à nourrir leur population. Ils ont détourné cet argent-là pour leurs propres besoins. Et le peuple est resté dans la disette. De la même manière, dans certaines dénominations, il n'y a que la caste dirigeante qui s'accapare des richesses. On ne fait pas de compte aux frères et sœurs, rien. C'était le flou total. C'est le flou total. Je pense que ces choses ne doivent plus être ainsi. Et que chaque année, le pasteur ou bien le comité, au moins il faudrait qu'il y ait un comité. Il ne faudrait pas que ce soit le pasteur seul qui dirige. Aucun modèle n'existe dans la Bible comme cela. Aucun modèle. Le modèle dont on nous dit du Nouveau Testament, ce modèle est collégial. Ce modèle est collégial. Mais dans certaines assemblées, les pasteurs sont plutôt de petits papes. Voilà. Donc ce serviteur donc est allé donc dire à Abigail, et le serviteur à propos pour se plaindre que on ne peut pas parler à Nabal. Avise maintenant à prendre un parti, car c'en est fait de notre maître et de toute sa maison. Il est d'ailleurs trop violent pour qu'on ose lui parler. Parce que ce serviteur, connaissant David et ses hommes, il savait que David allait descendre, voilà, pour rasier donc la ferme, pour rasier, pour détruire, et que les choses ne vont pas bien se passer pour Nabal, parce qu'il se croit tout puissant, ce Nabal. Il y avait un esprit de toute puissance en lui, quoi. Un esprit de toute puissance en lui, parce qu'il est riche, il est fort, il se croit tout permis. De la même manière, tous ceux qui sont riches, certains de ceux qui sont riches, se croient tout permis, parce qu'ils pensent que l'argent peut tout acheter. Donc Abigail a réagi promptement. Une réaction rapide. Il n'en a pas ainsi de certaines personnes. Hein? Dieu leur dit que de faire quelque chose, ils ne réagissent pas rapidement. Ça m'était arrivé. Hein? Ça m'était arrivé. J'ai raté des occasions comme ça dans la vie. Quand l'Éternel te dit quelque chose et que tu es sûr de cela, allez, vas-y, vite. La Bible nous dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Voilà. Donc Abigail donc a pris des vivres et est partie avec des serviteurs. Ouais, il a pris vraiment des vivres. On nous dit 200 pains, 200 outres de vin, 5 brebis tout accommodées. Voilà, 5 tout accommodées. 5 mesures, oui, ça doit être de la viande grillée. Hein. Voilà, 5 mesures de froment grillé, 100 gâteaux de raisin, parce que la troupe de David est de 600. Hein. 200 gâteaux de figues qu'elle fit charger sur des ânes. Alors donc, elle dit, elle s'en va donc à la rencontre de David avant que David n'arrive au mont Carmel. C'est ce que la Bible nous dit. Yeshua a donné cette parabole que si tu es en guerre avec quelqu'un et que tu vois que la personne est plus puissante que toi, ou bien si l'autre roi est plus puissant que toi, va négocier en chemin avant que ce roi ne t'attaque. Voilà, c'est ce que Abigail a fait ici, parce que comme nous dit la Bible, la femme vertueuse, nous allons lire, c'est la femme vertueuse est prévenante. Voilà, est prévenante. La femme vertueuse. La femme vertueuse, la femme vertueuse, la femme vertueuse. Qui peut, Proverbe 31, on dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Et effectivement, ce que Abigail vient de faire a sauvé la vie de toute la maison, de tout le monde, hein? De tout le monde, de toute la maison donc de Nabal a sauvé. C'est pour cela que qui peut trouver une femme vertueuse comme Abigail? Voilà, c'est une femme vertueuse. Elle a plus de valeur ici. Elle a sauvé des vies. Elle a sauvé des vies. Elle n'a pas fait que nourrir David ou bien répondre à la demande de David, mais elle a sauvé sa maison. Et sauver une vie a une plus grande valeur que tout. Elle a sauvé une vie. Et en même temps, elle a intercédé. C'est qu'elle s'est mise entre Nabal le sot et David, qui s'apprêtait à commettre l'irréparable, un acte de violence. Parce que la colère conduit au meurtre. La colère conduit au meurtre. La colère conduit au meurtre. Hein? On dit, elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige. Abigail n'a pas craint. Elle est partie sur ce chemin de montagne, de désert, pour aller à la rencontre de David, sachant que c'était une femme. C'était une femme. D'accord? frère Mateur, mon frère, ma soeur. Donc, dans le verset 20, donc, elle rencontra donc David sur le chemin et elle descend et se prosterna. Et se prosterna devant David parce que David était vraiment en colère. Et regardez ce que David a dit. David avait dit, c'est donc en vain que j'ai préservé tout ce que cet homme possédait dans le désert, de sorte qu'il n'a éprouvé aucune perte. Il m'a rendu le mal pour le bien. Mais la Bible nous apprend aussi de ne pas rendre le mal pour le bien. De ne pas rendre le bien aussi pour le mal. Vous voyez? Mais David ici s'apprêtait donc à commettre l'irréparable. L'irréparable. Donc, quand Abigail l'a rencontré, elle s'est prosternée, elle s'est humiliée. Elle a supplié par des supplications David de ne pas commettre l'irréparable. Elle a pris la faute sur elle. Voyez, elle défend sa maison. Elle défend sa maison. Voyez, elle défend sa maison, cette dame-là. Elle s'est prosternée, elle a intercédé auprès de David pour que David ne commette pas l'irréparable. Et vous allez voir que cette dame vraiment est d'une intelligence. Elle a dit des choses à David d'une manière subtile. Hein, subtile. Elle a reconnu que son mari n'était pas à la hauteur. Voilà. Que mon Seigneur ne s'occupe pas de cet homme indigne de Nabal, parce que quoi? Il ressemble à son nom. Et Nabal est son caractère. Ouais. Rustre. Insensé. Voilà. Est son caractère. Fou. C'était la folie. Il se nomme Nabal. Donc, ne t'inquiète pas. Elle a intercédé auprès de David. Elle a jeté la faute sur elle parce que, bon, étant l'intendante de la maison, étant l'épouse, voilà. Mais elle n'était pas là. Et dès qu'elle a su, elle a fait le nécessaire. Voilà, comme elle dit la vérité. Elle a dit, voilà, n'a pas vu les jeunes gens. Et maintenant, Seigneur, j'en atteste, le Dieu vivant est ta propre vie. Ce Dieu qui t'aura préservé de t'engager dans le sang et de te venger de ta propre main. Oui, parce que qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit quoi? Qu'est-ce que Dieu dit? À moi la vengeance. Ne vous vengez pas. La Bible dit, ne vous vengez pas. À moi la vengeance, dit l'Éternel Dieu. À moi la vengeance. Hein, c'est ce que l'Éternel Dieu dit. Hein. À moi la vengeance. De ne pas se venger. Hein, c'est ce que la Bible nous dit. À moi la vengeance. C'est Dieu qui doit se venger pour nous. À moi la vengeance. Romains 12, le verset 10. Bon, d'abord, Hébreux 10, le verset 3. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Romains 12, 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, c'est-à-dire le jugement de l'Éternel Dieu, d'Élohim. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Yeshua aussi, Jésus, va dire la même chose. La même chose. De ne pas nous venger, mais de laisser agir la colère ou bien le jugement de Dieu. De ne pas maudire les ennemis, mais de les bénir. Il y a beaucoup, beaucoup de soi-disant frères et sœurs de pasteurs qui lancent des imprécations aux gens que les gens vont mourir, les gens vont faire ceci, que cela tombe sur leur propre vie. Que, oh, vraiment, je ne sais pas hein, quelle Bible nous lisons tous. Hein. Mais la Bible nous dit de ne pas nous venger nous-mêmes, de ne pas lancer des malédictions, de bénir nos ennemis, que c'est comme des charbons ardents, c'est-à-dire le jugement de l'Éternel Dieu, donc qui s'amasse sur leur tête. Ouais, il a dit à David de ne pas s'engager, que Dieu l'a, Elohim l'a préservé, effectivement. Vous savez, l'Éternel Dieu a usé, a touché Abigail pour que Abigail sauve non seulement sa maison, mais également sauve David. Parce que je ne sais pas ce qui serait arrivé si David avait fait ça. Son règne aurait été taché de ce sang, parce qu'il aurait agi injustement. Nabal avait le droit de refuser, mais Nabal n'avait pas le droit de lui parler ainsi. Ça, c'est vrai. Mais aller tuer toute sa maison, d'autant plus que les autres n'ont rien à faire dans cette affaire, si tu es seulement Nabal seul, ok, mais tuer sa maison, rasier toute sa maison et ses biens, non, c'est pas la justice de Dieu ça, parce que le jugement ou bien la colère de l'homme, voilà un autre verset, la colère de l'homme ne fait pas la justice de Dieu. Ne fait pas la justice de Dieu. Je ne sais pas dans quel verset c'est, mais bon. Hein? Oui, la colère de l'homme ne fait pas la justice de Dieu. Oui, je pense que c'est ça, mais bon, c'est ça. C'est Jacques 1, le verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice d'Élohim ou de l'Éternel Dieu. Jacques 1, le verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de l'Éternel Dieu. De Dieu. D'accord? Voilà. Donc, Abigail a intercédé donc auprès de David, l'empêchant de commettre une injustice, l'empêchant de commettre un crime contre les serviteurs aussi de Nabal et toute la maison de Nabal et de ses biens. Et en même temps que Abigail intercédait, donc Abigail priait en même temps David de se tempérer et d'accepter ce présent, hein, d'accepter le présent et de ne pas aller jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout. Elle a supplié, daigne faire grâce à ta servante. Certes, l'Éternel donnera à ta maison, Seigneur, une existence durable, car ce sont les guerres de l'Éternel que tu soutiens et ta vie, et de ta vie le malheur ne t'atteindra pas. Ça, c'est bien, bien dit. Bien dit, ouais. Donc, c'est vraiment une femme très intelligente, hein. Une femme vertueuse, une femme inspirée. Inspirée, on nous dit que le verset 26 du Proverbe 31, parce que Abigail coche toutes les cases de la femme vertueuse. On nous dit, elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. D'accord? Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Vous-même, vous voyez, je n'invente pas. Je n'invente pas ce que Abigail, ce qu'elle dit était rempli de sagesse. Rempli d'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui l'inspirait. D'accord? Voilà, qui l'inspirait. Hein? Qui l'inspirait. Et elle a dit à David, mais ce que Dieu allait faire. Dieu allait faire de David. Parce que, oh, quand l'Éternel aura accompli pour toi, Seigneur, tout le bien qu'il t'a promis et qu'il t'aura institué chef d'Israël, parce qu'elle sait aussi que David était le prochain roi après Saül. Voilà. Et que quand cela va arriver, il ne faudrait pas que le crime que David s'apprêtait à commettre soit un obstacle, soit une tache sur sa robe blanche. Sur sa robe blanche, d'accord? Voilà, sur sa robe blanche. Il ne faut pas que ceci devienne pour toi, Seigneur, un écueil, une cause de remords d'avoir versé le sang inutilement et d'être fait justice toi-même, parce que c'est l'Éternel qui fait la justice, qui nous fait justice. Parce que la colère de l'homme ne peut pas accomplir la justice de Dieu. Et nous l'avons lu tout à l'heure, l'Éternel a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. David aurait vraiment regretté et d'avoir versé le sang inutilement et d'espérer justice. L'Éternel te rendra heureux, Seigneur, tu te souviendras de ta servante. Oui, il s'en est souvenu. Donc, David, par ses mots, ses paroles, ses paroles douces, ses paroles agréables, ces paroles écrites comme avec la plume d'un habile écrivain, David s'était adouci. Donc, Abigail a vraiment intercédé, a atteint son but, a réussi à sauver sa maison et à calmer David et aussi à apporter les biens que David a demandé donc à Nabal. Et David ne pouvait que louer l'Éternel Dieu pour ce que l'Éternel vient d'accomplir à ses yeux. David dit, le verset 32, « David répondit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Il n'a pas dit « Béni soit Abigail », il n'a pas loué parce que Abigail a été un instrument dans la main de l'Éternel Dieu. Et c'est ce que Paul l'apôtre disait, qu'on ne loue pas le marteau pour son travail. On loue celui qui a utilisé le marteau. Donc c'est l'Éternel Dieu qui a utilisé, Abigail. C'est pourquoi David bénit l'Éternel. Bénit l'Éternel. Vous savez, lorsque l'Éternel nous donne quelque chose, même la nourriture, nous avons souvent tendance à bénir la nourriture. Vous voyez, nous avons tendance à bénir la nourriture. Vous savez, c'est une leçon que j'ai apprise. Un jour, je faisais ça, mais alors j'ai une voix qui me dit, mais non, c'est la personne qui a, c'est celui qui te donne la nourriture que tu dois bénir, que tu dois louer. Voilà. Jésus, Yeshua, n'a jamais béni une nourriture. Hein. La Bible nous dit qu'il rendit grâce. Il rendit grâce. Donc nous devons rendre grâce en toutes choses à l'Éternel Dieu. De bénir celui qui pourvoit à nos besoins. Béni soit l'Éternel, l'Élohim d'Israël, de t'avoir envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Et béni soit ta prudence. Et béni sois-tu, voyez, David a d'abord béni à rendre gloire à l'Éternel d'abord, avant de se tourner vers Abigail. C'est-à-dire, nous bénissons l'Éternel et nous remercions aussi celui par qui la bénédiction est venue. Béni soit ta prudence, béni sois-tu, toi qui m'as empêché aujourd'hui de m'engager dans le sang et de demander secours à ma propre main. Mais certes, pas l'Éternel Dieu d'Israël qui m'a préservé de te faire du mal, vous voyez. C'est en quelque sorte une repentance. David a reconnu qu'il s'était un peu égaré. La preuve, il était tellement en colère qu'il n'a rien demandé à l'Éternel. Alors que nous avons vu il y a quelques chapitres précédemment que David avait appris la leçon à marcher avec Dieu. Mais la colère abolit tout. La colère nous empêche de prier. La colère nous empêche de voir, de réfléchir. Voyez, il a pris son épée, il a dit, on part. Il n'a même pas interrogé l'Éternel. Seigneur, je dois, comme il le faisait d'habitude. Mais la colère a aboli son discernement spirituel et l'a amené dans la voie du mal. Hein? Voilà, et lui-même a reconnu cela. Mais certes, pas l'Éternel Dieu d'Israël qui m'a préservé de te faire du mal si tu n'avais pas pris les devants en venant à moi. Certes, d'ici au point du jour, pas la moindre créature ne fut restée à Nabal. Vous voyez, pas la moindre créature ne fut restée à Nabal. Il allait tout rasier, tout. Et ceux qui vont aller résister, il allait les liquider. Mais l'Éternel Dieu veillait sur David, qui est un homme selon son cœur. Malgré nos erreurs, l'Éternel nous aide. L'Esprit de Dieu sonde nos cœurs. Il sait ce que nous avons besoin. Parce que nous ne demandons pas les choses souvent. Nous sommes emportés par la chair des fois qui est encore là. C'est pourquoi la Bible nous dit, vivez selon l'Esprit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. De la chair. De la chair. David accepta, donc Abigail a réussi à convaincre David, et David accepta de sa main ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, retourne en paix chez toi. Vois, j'ai cédé à ta parole et je t'ai fait bon accueil. Voilà. Voilà le rôle de l'intercesseur. L'intercesseur se met entre l'Éternel Dieu, entre le trône de Dieu et la personne pour laquelle on intercède. Et lorsque l'Éternel exauce la prière, cela montre que l'intercesseur a réussi son intercession. Et c'est ce qui est arrivé dans le verset 20, 35. David a reconnu les faits et a reconnu donc sa disposition au mal. Et il a reconnu aussi que la main de l'Éternel Dieu était donc sur Abigail et sur lui-même, et que Abigail a été un instrument, un intercesseur, un instrument dans la main de l'Éternel Dieu pour l'empêcher de répandre le sang innocent et de faire du mal aussi à Abigail. Parce que si David tuait donc Nabal, mais Nabal étant l'époux d'Abigail, Abigail se retrouvera veuve et ça lui fera du mal. Malgré le caractère difficile de son mari, elle aimait son mari. Voilà, elle aimait son mari. Et l'acte de bravoure, hein, la bravoure qu'elle a montrée montre qu'elle aimait son mari et qu'elle était prête à tout pour le préserver, pour chercher son bien. David a cédé et a accepté donc les présents et s'est adouci. Mon frère, ma sœur, que l'Éternel nous donne aussi la grâce de marcher selon sa parole, de ne pas marcher selon la chair, mais selon l'esprit, et d'être à l'écoute de la voix de l'esprit. Que lorsque nous entreprenons quelque chose, que nous puissions soumettre cela à l'Éternel Dieu avant de nous y engager dedans. Le livre de Samuel est prophétique, donc nous devons également apprendre dedans, être des intercesseurs fidèles, à intercéder pour nos foyers, pour notre couple, notre famille, à intercéder pour les cas que l'Éternel nous met à cœur. Nous met à cœur à intercéder pour toutes les situations que nous trouvons juste. Voilà. Nous, il y a une situation aujourd'hui qui prévaut dans le monde et qui pourrait dégénérer sur la Troisième Guerre mondiale. Mes frères, mes sœurs, nous devons vraiment supplier l'Éternel Dieu, intercéder pour que cette guerre prenne fin. Mes frères, mes sœurs, voilà ce que nous devons faire parce que c'est le sang innocent qui se repent chaque jour, c'est les êtres qui meurent chaque jour, et ces êtres-là, ces personnes, ne sont même pas nées de nouveau. La majorité ne sont pas nées de nouveau, et c'est l'enfer qui se remplit, c'est le diable et ses démons qui se réjouissent. Ouais, ils se nourrissent de la guerre. Prions pour nos dirigeants, prions pour, intercédons pour les dirigeants européens qui alimentent cette guerre. Et également pour les dirigeants russes, le dirigeant russe, également pour que cette guerre cesse et que les deux camps puissent trouver une entente. On n'a pas d'argent pour nourrir les pauvres, on n'a pas d'argent pour venir en aide aux gens qui sont dans la disette, dans les qui sont victimes de catastrophes et autres. On n'a pas d'argent pour s'occuper des œuvres, pour faire des œuvres sociales. On n'a pas d'argent pour aider les hôpitaux, mais on a de l'argent pour acheter des engins de mort pour tuer. Or, l'hôpital fait quoi? Préserve la vie, n'est-ce pas? Vous savez, ce monde préfère la mort. Ce monde est un monde de mort. Ce monde, vous voyez, travaille à détruire les populations, à détruire la vie des gens. C'est pourquoi nous voyons que ce monde est dirigé véritablement par le serpent ancien, par l'ennemi. Hein? Le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire quelque chose de contraire ici en Europe, en France ici, contre la guerre en Ukraine. Vous serez automatiquement ostracisé, qualifié d'ennemi. Bon, pour le moment, on n'emprisonne pas ceux qui tiennent des propos contraires à ce que l'Union européenne dit, hein. Voilà, vous comprenez ce que je dis. Voilà, donc, mais quand toi, tu tiens des propos contraires, parce que nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas prendre parti, parce que c'est les âmes qui se perdent. Mes frères, mes sœurs, intercédons, prions l'Éternel, supplions l'Éternel Dieu pour que l'Éternel Dieu mette fin à cette guerre. Nous pouvons nous appuyer sur un verset. Il a dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu, que c'est moi qui mets fin à la guerre jusqu'aux extrémités de la terre. Je pense que c'est ça, hein? Fin à la guerre. Il met fin à la guerre. Je ne sais pas le verset, mais peut-être que vous saurez. C'est dans un psaume, non? Ok, ben, je ne sais pas. Il met fin à la guerre, d'accord? Il met fin à la guerre ou bien au combat. Fin au combat. Alors, je pense que c'est ça. Je ne sais plus, mais vous êtes des étudiants de la Bible. Il met fin au combat. Ok, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il met fin, qu'il est l'Éternel. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Eh oui, je pense que arrêtez. Attendez, sachez. Je suis Dieu, je ne sais plus. Non, c'est un psaume, je ne sais plus quoi. Je ne sais plus quel psaume c'est, mais bon, ok, mais je ne sais plus. Peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être que je me trompe. je sens. Allez, sachez que je domine sur la terre. Il a dit, je pense qu'il y a un verset comme ça et que c'est lui qui met fin à la guerre. Je ne sais pas. Ok, dans tous les cas, prions pour que l'Éternel Dieu mette fin à cette guerre atroce qui voit les âmes. Il y a un verset aussi qui dit que l'enfer a ouvert sa gueule. L'enfer a ouvert sa gueule. Je pense que c'est dans Ésaïe. L'enfer a ouvert sa gueule. Je pense que a ouvert sa gueule. Je pense que c'est dans Ésaïe. Hein. Je ne sais plus. Hein. Je ne sais plus. Mais bon. Vous voyez, ce sont des versets qui me viennent. Hein. Qui me viennent. Hein. Voilà. Je ne sais pas. L'enfer a ouvert sa gueule. Je pense que c'est Ésaïe. Oui, c'est ça. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa gueule, Ésaïe 5, le verset 14, élargit sa gueule haute mesure, alors descend la magnificence et la richesse de Sion. Ouais, la foule bruyante, joyeuse. Aujourd'hui, l'enfer, oui, le séjour des morts a ouvert sa bouche, hein, élargit sa gueule haute mesure, puisque nous avons tous dans l'actualité, hein, que au moins 100, ou plus de 150 personnes sont déjà décédées dans cette guerre, des innocents. Hein, des innocents. Hein, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Non, rien du tout. Rien du tout. Et ceux qui sont en sommet alimentent cette guerre-là, ben, eux, ils sont à l'abri. Et on ne sait pas. Et quand on voit comment les journalistes traitent cette guerre, vraiment, c'est à vomir, quoi. C'est comme si la vie humaine n'a plus de valeur. Oh, mes frères, Mes frères, mes sœurs, supplions l'Éternel. Véritablement, c'est un cri de cœur que je lance vraiment, mes frères et sœurs. Bon, peut-être que ceux qui sont en Afrique, dans d'autres parties, vont dire, OK, nous, nous sommes en Afrique, ça ne va pas nous atteindre. Oh non, c'est faux, mes frères, mes sœurs. Ça nous concerne tous. Si une bombe atomique tombe ici en France ou bien ailleurs, ça polluera aussi jusqu'en Afrique, hein, mes frères. D'accord? Donc, intercédons et que les choses se calment et que les dirigeants retrouvent la raison. Mais aujourd'hui, ils sont tous maboules. Ils sont tous maboules. Ils sont tous sous l'action de prince de ce monde. Mais néanmoins, tout ce qui arrive concourt à notre bien. Voilà. Prions, intercédons, et l'Éternel nous fera monter sur des hauteurs, sur des hauteurs que nous ne pouvons pas atteindre. Que son nom soit béni et glorifié. Amen et Amen.